Fontenoy, deuxième partie. Nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Prieux, notre spécialiste BD. Bonjour Frédéric.
Bonjour Corinne.
Merci beaucoup de nous rejoindre et de nous consacrer un peu de temps pour nous parler de vos coups de cœur 2011.
Et oui, et puis bonjour à Jacques aussi, qui est aussi dans les murs, je crois.
Oui, mais il est un peu tout sautant. Alors le pauvre, on l'a un peu enfermé dans le placard, là, juste à côté, parce que on ne voudrait pas que ça tout fasse trop de bruit quand même. Hein. Voilà, on va vous écouter. Donc, premier coup de cœur, de quoi est-ce qu'on va parler?
Voilà, eh bien écoutez, le premier coup de cœur, en fait, vous le connaissez un petit peu parce qu'il me semble qu'on en a parlé un petit peu sur Onde Noire en cette année 2011, on va dire. C'est dans la catégorie comics, Granville, mon amour, de Brian Talbot, aux éditions Milady. J'ai commencé par les comics parce que j'ai un faible pour le crime comics depuis quelques années. On trouve toujours des BD étonnantes et Granville en est une. C'est la deuxième enquête cette fois-ci, Granville mon amour, qui met en scène l'inspecteur Lebrock et son adjoint, le subtil et fidèle Razzi. Et dans cet univers steampunk, alors vous voyez, hein, Corinne, steampunk, c'est Jules Verne.
Oui, non, mais je traduis un peu, hein, faut pas croire. Voilà. J'ai su rester jeune.
C'est bien. Donc les personnages sont tous des animaux, à l'image de Canardo et de Black Sad, mais dans Granville, ils sont nettement plus barrés. Et je n'ai pas peur de le dire, il y a dans cet album des surprises visuelles et narratives sur presque 100 pages, et au bout du compte, un dépaysement total. Mais voilà.
Frédéric, on peut le lire indépendamment, puisque c'est le deuxième album du premier, c'est deux aventures indépendantes.
Ouais. Tout à fait, ça ne se suit pas, on retrouve l'univers avec le Paris, puisque Granville c'est Paris du futur imaginé par Talbot, mais ça se lit de manière indépendante sans aucun problème. Voilà. Donc le deuxième coup de cœur que j'avais, c'est The Last Days of American Crime, encore un comics, avec l'accent.
Vous notez. Oh, ça nous fait du bien en ce moment, hein.
N'est-ce pas? De Rick Remender et sur un scénario des dessins de Greg Tocchini, c'est chez Emmanuel Proust. Et c'est la conclusion d'une trilogie. Et pour mémoire, pour ceux qui n'avaient pas lu le début, il s'agit d'une histoire d'un casse qui est organisé par des malfrats. Ça fait tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et qui doit se dérouler, alors là c'est là où c'est plus subtil, juste avant l'émission d'un signal qui agit sur le cerveau et qui annihilera toute envie de commettre un crime, voire même un petit délit, d'où le titre The Last Days of American Crime. Je sais pas si vous saisissez bien l'affaire, mais en fait c'est une trilogie que l'auteur qualifie lui-même de polar hardcore avec un contenu anarchiste, rien que ça.
Contenu hardcore avec un débordement anarchiste. On va retenir ça, oui.
C'est très chouette. Alors, pas aussi hardcore, mais tout aussi anarchiste, j'ai beaucoup aimé, vous l'aviez aussi beaucoup aimé, me semble-t-il, dans l'équipe, c'est l'organisation, deuxième adaptation chez Dargo, du Richard Stark de Parker.
Tout à fait.
Alors là, c'est superbe, c'est dessiné par Darwin Cook, et par rapport au premier, j'ai trouvé qu'il y avait des choix encore plus audacieux dans ce tome. J'ai par exemple remarqué que dans le livre 3 de cette histoire, qui compte 4 livres en fait, Cook il utilise en 30 pages, 4 styles différents pour illustrer les activités de l'organisation, le vol, le racket, le casino, et 4 styles aussi pour montrer comment Parker va à chaque fois arnaquer la société criminelle, donc la mafia. Donc ça c'est magnifique. Et c'est Doug Edline qui avait traduit.
Ce sont de très beaux albums, ça, vraiment.
Ah oui. Ils sont très très beaux. Donc ça, ce sont trois comics que j'ai vraiment bien aimé. Alors puisqu'on était chez les romans adaptés, j'avais bien aimé, moi aussi, vous l'aviez noté, La Comédie des ratés.
Voilà, moi j'allais le dire en dernier, mais c'est vrai. Donc là, le deuxième tome est paru, le premier tome est, enfin, ils sont parus tous les deux en 2011, d'ailleurs, me semble-t-il.
Petit décalage quand même.
Voilà, mars, octobre ou quelque chose comme ça. Il faut rappeler que c'est donc un roman de Tonino Benacquista.
Exactement, paru à la Série Noire à l'époque, et puis qui se passe entre la France et l'Italie. C'est vraiment un superbe roman, et puis la datation de Berlion.
Olivier Berlion, donc je pense qu'on va en entendre parler de ce dessinateur.
Oh ben, Oui, je c'est à espérer parce qu'il a une deuxième carrière intéressante. Il avait fait de la série Tony Corso là qui était assez bien troussée. Et puis il avait également fait une adaptation Rivage Noir Casterman,
oui.
Qui était de Oklahoma, qui de bon c'était peut-être un peu plus western comme ambiance, mais c'était intéressant.
Oui, c'était un petit peu moins enlevé quand même, j'avais trouvé. Mais, ouais. Mais là, la Comédia des ratés, c'est splendide.
Ah oui, très 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 beau, et j'avais bien aimé aussi La Princesse du Sang, le deuxième volume, avec Headline justement encore à l'adaptation et Cabane. Et pour parler de Rivage Noir Casterman, qui est quand même devenu en peu de temps la série de référence, ouais. La collection de référence pour les adaptations, moi j'ai bien aimé le Adios Muchachos d'après Chavaria.
Ah, on a qu'une envie, c'est de suivre ces jolies fesses rondes sur cette oui. bicyclette, c'est oui, magnifique. Oui, oui.
C'est une des rares raisons qui nous ferait faire du vélo.
Voilà, je vois que Jacques se réveille juste.
Voilà, oui. On l'a sorti du placard juste pour ça.
D'accord. Bah, j'avais noté, moi, qu'il y avait un petit côté Pichard dans cet Adios Muchachos. Et puis, sinon, j'ai bien aimé L'Homme Squelette de Will Argunas, d'après Tony Lerman, qui était assez réussi. Et L'Hiver de Glace de Romain Renard, d'après
Goudrel. Oui.
Ces trois-là me paraissaient vraiment, vraiment, vraiment bien, mais toute la collection vaut vraiment.
Oui, parce que moi, j'y ajouterais un livre dont on a moins parlé, enfin, une adaptation dont on a moins parlé, qui est Le Policier qui rit, à partir suédois.
Avec l'accent aussi, là.
Voilà, mais oui. J'allais vous laisser vous le dire. Bon, allez, je vais me lancer. C'est Mage Cheval et Père Wallow.
Voilà, c'est ça.
C'est
pas Wallow, Wallow.
Wallow,
oui. Oh là là, c'est compliqué. Oh,
non, mais c'est ça, quand on a le don des langues comme nous.
Voilà, c'est cela, oui.
Mais bref, c'est vrai qu'elle est aussi intéressante, mais toute la collecte est vraiment assez bien faite parce que on rappelle presque à chaque fois des auteurs qui correspondent bien à des dessinateurs dont les styles correspondent bien aux univers des auteurs. Et je voulais vous parler aussi d'une adaptation qui vous avez peut-être aussi vu passer, qui est celle de Thierry Burat pour Les Larmes de l'Assassin. Alors ça, Les Larmes de l'Assassin, c'était un roman pour la jeunesse d'Anne-Laure Bondou qui a été couronnée de prix de multiples reprises. Et là, c'est l'histoire donc d'un jeune garçon qui s'appelle Paolo et qui vit avec ses parents dans le dénuement et l'isolement le plus extrême dans les contrées arides, puisque c'est en Patagonie. Un homme arrive, traqué, un truand, et il liquide carrément les adultes et il s'installe dans leur ferme où il espère que la police ne le retrouvera pas. Donc il a épargné l'enfant, le jeune garçon, et une étrange et étonnante relation naît entre Paolo et l'assassin de ses parents. C'est alors déjà c'est très fort au niveau du roman. Alors là, visuellement, le dessin de Thierry Burat, c'est quelque chose de très fort aussi, puisqu'il a trouvé le juste milieu pour retranscrire l'interaction qu'il y a dans le roman entre les paysages arides et les émotions des personnages. C'est vraiment c'est magnifique, c'est plein de silence, c'est une bande dessinée pleine de silence qui est superbe. Voilà, c'est chez Futuropolis, faut le dire.
Voilà, oui, c'est ce que j'allais vous demander, oui, la collection, ouais. Donc Futuropolis qui fait un très bon travail aussi.
Les Larmes de l'Assassin, Futuropolis a aussi fait paraître une bande dessinée que, alors j'ai beaucoup de coups de cœur, mais c'est sur un an, hein, qui s'appelle La Photo Chinoise.
Ah alors oui, là, magnifique, si un format l'avez... plus petit que les Futuropolis classiques
oui,
d'ailleurs.
Oui, voilà, un peu du format des Larmes de l'Assassin d'ailleurs, La Photo Chinoise. Où là, Aurélien Ducoudray et François Ravard, scénariste et dessinateur. Alors là, ils réussissent l'exploit, moi j'avais noté, d'aborder à la fois la lutte des classes, les délocalisations, les grippes aviaires et porcines, l'anorexie, les relations frères-sœurs, et plein d'autres choses, à travers la vie peu envieuse de leur héros, entre guillemets, Louis Meunier, qui lui est en proie à l'oppression du capitalisme le plus sauvage.
On croirait, peut dire qu'il se fait plumer dans ce...
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on croirait un peu lire de temps en temps, on peut pas lire, mais ça évoque le contrat de Westlake ou Simple comme un coup de fil Jason Starr avec cette histoire de gens qui ne veulent absolument pas perdre leur emploi. C'est formidable. Alors, il y a un autre album se passe dans un contexte de crise économique et parfaitement décrit aussi, mais alors là, dans un autre pays, c'est dans l'Allemagne des années 20. Et décidément ce roman. Cet album, c'est Le Boucher de Hanovre, d'Isabelle Kreis chez Casterman. Alors là, on suit l'histoire véridique de Fritz Harman, qui était surnommé donc Le Boucher de Hanovre, et qui sévissait à la même période que le vampire de Düsseldorf.
Oh, bah, il s'était donné le mot, certainement.
Ah, ouais, oui, oui. Puis des gens fort sympathiques, parce que lui, Arman, il s'appelait, il s'en prenait à des jeunes garçons, 13, 17, 19, qui l'abordaient à la gare et qui l'attiraient jusqu'à sa mansarde sordide et il les violait avant de les liquider. Alors, moi, je suis pas fan des histoires des serial killers, mais alors là, c'est complètement fascinant parce que le dessin en noir et blanc de la jeune femme, Isabelle Kreis, restitue les rues crasseuses de Hanovre, l'antre du tueur, là, avec une précision assez qui fait froid dans le dos. Et elle ne s'attarde pas du tout sur le côté gore des personnages du boucher et elle évite tout ça. Mais on lit le regard dans le regard la peur qui saisit les victimes et puis le regard fou de son tueur là c'est absolument fascinant. Donc pas gay.
Alors, c'est ce que j'allais dire. On parlait tout à l'heure avec Jean-Marc d'un livre à lire au soleil. Je pense que celui-là est aussi à ouvrir et à déguster au soleil parce que ça m'a l'air très sombre.
Un petit peu de voilà. Alors si j'ai encore un tout petit peu de temps.
Tout à fait.
Voilà, donc pour se détendre justement, j'avais noté qu'il y avait cette année, 2011 encore, était paru une bande dessinée intéressante chez Très Étrange, le label de Glénat. Alors une BD qui s'appelle Barzun Circus. Alors le Barzun Circus, c'est un groupe de personnages plus ou moins disparates, puisque à l'intérieur il y a un gamin, un gorille, un fakir, deux jumelles, un clown, Alcolo, le clown, et dont on ignore un peu l'origine et les objectifs. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont plongés dans une enquête qu'ils doivent résoudre dans les années 30. Le titre de l'album, c'est Le Jour de la Citrouille. Et c'est une fausse troupe de cirque. Et l'enquête donne l'impression qu'on se retrouve au carrefour de séries télé entre Mission Impossible et La Caravane de l'Étrange. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Carnivalet, si vous avez vu cette chose.
Non.
Cette étrange série. Ça donne cette impression-là. Donc c'est très bizarre. Je parlais un peu de légèreté. C'est plus drôle que le boucher d'un homme.
Que les deux précédents ou les larmes de l'assassin, oui, ça
voilà.
Quand même.
Et puis voilà, et c'est un style quand même graphique proche de l'école franco-belge Spirou, quoi. Hein. Donc beaucoup plus distrayant, voilà. Et deux albums aussi très légers. Il y a Secret de famille, qui alors là, je vous en parle très rapidement. C'est la deuxième enquête d'Andrew Barrymore. C'est un western aux allures de Sherlock Holmes, puisque le héros, c'est un grand échalard rouquin qui résout des énigmes plus grâce à son sens de la déduction que grâce à son six coups. C'est très très drôle et c'est chez Dargaud. Et c'est donc de Roderick Valenbois et de Nicolas Delestré. Et ça s'appelle donc Secret de famille, deuxième enquête. Et l'autre album assez léger, voilà, et ce sera l'avant-dernier coup de cœur pour cette année, c'est Lady Elsa. Alors Lady Elsa, c'est le retour d'Elsa Rochester, qui était les Rochester, c'était une série chez Dupuis qui s'est arrêtée au grand désespoir de Dufaux et Wurm, les auteurs, et que Glénat a repris, mais en ne gardant que Lady Elsa, qui est une jeune femme dynamique.
Ils ont gardé la fille quand même. Hein. Bon, enfin non. Là, je plaisante.
Oui, oui, c'est très classique. Alors le dessin reste très ligne claire. C'est la ligne claire période du floc de la période Albany. Vous voyez le dossier Harding. Alors chez Sir Malcolm, ça vous dit des choses. C'est bande dessinée des années 80, n'est-ce pas? Voilà. Alors ça fait un peu vieillot, mais moi j'aime beaucoup. Et puis alors là, il y a un petit côté coquin qui est très agréable. Et je finirai avec une bande dessinée que j'ai vraiment adorée qui s'appelle We Are the Night de Ozana Mekiran. Alors We Are the Night, c'est une bande dessinée des éditions Ankama qui publie des mangas aussi. Et là, c'est une nouvelle collection, débutée il y a 2 ans, qui s'appelle Austin Holster. Et cette bande dessinée, We Are the Night, Ankama la présente comme, là, je les cite, une BD chorale pour un polar noir urbain. Bon, c'est vrai, là aussi, on va faire confiance à l'éditeur. Ce sont 2 volumes, ça raconte la nuit lyonnaise, ça se passe à Lyon, de 19 personnages qui vont se croiser, ou alors pas d'ailleurs, et dont les activités vont les emmener du mauvais ou du bon côté de la barrière. Alors, ça donne une balade nocturne jusqu'au bout de la nuit et avec un rythme assez très très bien maîtrisé puisque on passe d'un personnage à l'autre avec un suspense qui grandit et au fil du, au bout du compte, on se retrouve avec le croisement des routes de tout le monde. C'est vraiment, vraiment formidable. Ça fait penser à un French comic avec, si vous me permettez ce barbarisme, le French comic.
French comic, why not,
voilà, avec le découpage, le format, puis le titre en VO, We Are the Night, hein. Nous sommes la nuit, comme je peux le traduire aisément cette fois-ci.
Oui,
et
bien.
Voilà, je vous conseille et je vous parlerai à une autre occasion sur ces ondes de la collection Hostile Holster qui vaut vraiment le coup et qui à mon avis pourra séduire pas mal d'amateurs de bulles noires. Voilà.
Mais en tout cas, c'est un très beau panorama parce que là, je crois qu'on a abordé à peu près tous les styles et en particulier, on a bien vu que la BD a vraiment évolué depuis ces 20 dernières années et on prend plus une BD forcément que pour 10, 13 ans, comme on dit, hein, comme pour se distraire, mais qu'il y a des sujets très sérieux abordés et des drames dans les BD polars très 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 bien dessinés, on va dire.
Exactement, et puis effectivement, ce n'est plus réservé depuis un certain nombre d'années à la jeunesse, à divertir. Ce n'est plus, en fait, c'est ça le mot, c'est que ce n'est plus que du simple divertissement. On arrive à aborder les thèmes qu'on trouve dans le roman noir, tels ces romans dont Jean-Marc vous parle régulièrement et que vous-même vous nous donnez envie de lire. Et la bande dessinée, c'est ça aussi. Donc voilà, tant mieux. Donc ça continue. Il y a une production intéressante. Faut faire le tri. On est là pour
vous continuerez à intervenir régulièrement pour nous parler non plus là de 2011 mais de 2012. Alors je rassure les auditeurs, là on a dit beaucoup de titres avec tous les auteurs, tous les éditions, mais ce sera sur le site dans pas longtemps. Et puis de toute façon, je pense que toutes ces BD, on peut vous lire plus longuement en parler.
Oui. En fait, ça sera ma sélection aussi pour BD Polar en grande partie. Donc, vous pourrez la retrouver sur le blog.
Sur votre blog BD Polar. Et donc, exactement. Il suffit de googliser ce nom. Et on vous retrouve avec plein d'autres coups de cœur de l'année 2011, mais aussi des autres années, parce qu'il y a à piocher sur plein de temps.
Oui.
Frédéric, merci beaucoup et à très bientôt.
Et comme je me suis laissé entendre que vous aimiez les Ramones, on va finir cette petite session de Onde Noire par un petit morceau des Ramones qui s'appelle She's the One.
Ah oui, alors là, merci beaucoup, ça me touche beaucoup.
À bientôt, Frédéric, et merci.
À bientôt, les amis. Bonne année.
Au revoir.
Au revoir.
She's the other one, Corinne.
Voilà, juste un petit mot. pour vous annoncer que dans un mois exactement, dans 3 semaines et demie, les 3, 4, 5 février, l'événement Polar de la Côte d'Azur avec Polar à Drape, Drape sur les hauteurs de Nice, c'est facile de s'y rendre. Plus de 25 auteurs vous attendront, dont Marc Villard et un invité de prestige, Georges Lautner, qui nous fait le plaisir d'être l'invité d'honneur de Polar à Drape. Voilà, je vous souhaite encore une fois de grands plaisirs de lecture pour cette année, lecture de bonnes nouvelles entre autres, et puis ben, on se retrouve dans 15 jours. Au revoir Jacques.
Au revoir Corinne.
Au revoir les amis. À tous.